Bonjour à tous, vous écoutez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. À ce micro, je suis Mamadou Oumfa et Rosine Mounezero est avec moi dans ce studio pour la co-présentation. Bonjour Rosine.
Bonjour Mamadou, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous parlons de la résistance du virus du sida au traitement antirétroviraux.
Quand 6 mois après avoir mis un patient sous traitement et que cliniquement il n'est toujours pas stable, on parle de résistance. À ce moment-là, les médicaments n'agissant plus, les virus continuent à se multiplier.
Comme nous le verrons dans cette édition, la résistance du VIH aux antirétroviraux est parfois due à la mauvaise observance du traitement, elle-même liée aux difficultés économiques et sociales des malades.
Le problème de nutrition ou le problème d'alimentation aussi est un réel problème pour les personnes vivant avec le VIH. Si les personnes prennent le traitement et qu'ils ne s'alimentent pas correctement, son état sanitaire ne va pas s'améliorer.
Pourquoi le VIH devient parfois résistant au traitement? Que faire en pareille situation? Comment éviter d'en arriver là? Les réponses, c'est dans la suite de ce programme. Mais pour commencer, voici l'actualité.
Coup d'œil sur l'actualité.
L'actualité santé, c'est avec Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin.
Bonjour Rosine.
Commençons par le VIH-Sida en Afrique du Sud, le pays le plus touché au monde par l'épidémie. Là-bas, l'on signale des projets originaux pour lutter contre la stigmatisation des malades.
Tout à fait, Rosine. En Afrique du Sud, l'une des causes de maintien de l'épidémie à un haut niveau est que certaines catégories de personnes à risque répugnent toujours à se présenter dans des centres de santé publique pour un dépistage par peur d'être stigmatisées. C'est pourquoi les autorités sanitaires ont fait le pari de l'autodépistage et des distributeurs automatiques de médicaments. Parlons d'abord de l'autodépistage. Il y a par exemple l'ONG United qui propose des tests d'autodépistage aux portes d'un supermarché du quartier pauvre de Hillbrow au centre de Johannesburg. Isolés du regard des autres dans des tentes, les passants remplissent une simple fiche en échange d'un test gratuit qu'ils pourront ensuite utiliser eux-mêmes sur place ou à leur domicile.
Et on révèle que s'ils sont séropositifs, ils pourront aussi obtenir des médicaments sans avoir à affronter les regards des personnels sanitaires.
Effectivement, il y a par exemple l'association à but non lucratif White If Pharmacy qui vient de lancer une autre nouveauté. Les malades du township d'Alexandra peuvent désormais retirer leur traitement en toute discrétion dans un distributeur automatique semblable à ceux des banques. C'est le tout premier de ce type de service sur le continent africain. Grâce à une carte, un code et la confirmation d'un pharmacien via une liaison vidéo, les patients peuvent venir retirer leur trithérapie en moins de 5 minutes. Pour de nombreux malades, au-delà de la discrétion, ces distributeurs automatiques facilitent l'accès aux médicaments en évitant de longues heures d'attente dans les hôpitaux.
Très intéressant en effet. Parlons maintenant de la tuberculose dont la journée mondiale a été célébrée le 24 mars dernier.
Oui, Rosine, comme chaque année, le 24 mars est l'occasion de faire mieux connaître au grand public les terribles conséquences sanitaires, sociales et économiques de cette maladie. C'est aussi le moment de plaider pour que de plus grands efforts soient consentis afin de mettre fin à l'épidémie mondiale de tuberculose. Rappelons que cette date ne doit rien au hasard. C'est le 24 mars 1882 que le docteur Robert Koch a annoncé avoir découvert le bacille responsable de la tuberculose. C'est pourquoi cette date est retenue pour la journée mondiale de cette maladie qui provoque encore environ 4500 décès chaque jour selon l'Organisation mondiale de la santé.
Effectivement, Firmin, des progrès dans la lutte contre la tuberculose ont été réalisés au cours des dernières décennies, mais cette maladie reste la principale cause infectieuse de mortalité dans le monde.
En effet, en 2017, l'OMS a notifié 10,4 millions de cas de tuberculose et en 2016, la tuberculose a entraîné 1,8 million de décès dans le monde. 7 pays totalisent plus de la moitié des cas, parmi lesquels 2 pays africains, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Signalons que la tuberculose représente le premier facteur de mortalité chez les personnes vivant avec le VIH-Sida. Les spécialistes notent aussi que l'apparition des formes multirésistantes de tuberculose représente une forte menace et pourrait remettre en cause les avancées obtenues dans la lutte contre la maladie. Cependant, mettre un terme à l'épidémie d'ici 2030 demeure l'un des objectifs de développement durable adoptés en 2015 par les pays membres de l'ONU.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Terminons cette page d'actualité santé par l'épidémie de listériose qui sévit en Afrique du Sud depuis le début de l'année 2017. Des victimes ont décidé de porter plainte.
En effet, Rosine, elles ont déposé le 29 mars dernier devant le tribunal de Johannesburg une plainte en nom collectif contre Tiger Brands. Tiger Brands est le groupe agroalimentaire propriétaire de la compagnie Entreprise Food qui est accusé d'avoir fabriqué des saucisses à l'origine de la contamination. L'avocat Richard Spohr a indiqué qu'il s'agit là de la première étape d'une procédure visant à établir la responsabilité du groupe alimentaire. Rappelons que le 3 mars, le gouvernement sud-africain avait clairement indexé Entreprise Food. Par ailleurs, plusieurs pays d'Afrique australe ont suspendu partiellement leur importation de viande prête à consommer provenant de l'Afrique du Sud.
Et qu'en est-il exactement de l'épidémie ?
Selon le bilan le plus récent, à la date du 29 mars 2018, un total de 948 cas de listériose ont été diagnostiqués en Afrique du Sud. Et la maladie a déjà provoqué la mort d'au moins 183 personnes. Un premier cas de la maladie a aussi été confirmé en Namibie, pays frontalier de l'Afrique du Sud. Pour rappel, la listériose est causée par des bactéries présentes dans le sol, l'eau, la végétation et les excréments d'animaux. Elles peuvent contaminer la nourriture, notamment la viande, les produits laitiers et les produits de la mer. Les personnes les plus vulnérables sont notamment les prématurés et les femmes enceintes.
Merci Firmin.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Comme nous l'annoncions au début de ce programme, cette semaine, nous parlons de la résistance du virus du sida au traitement antirétroviraux, ARV en sigle. Le VIH est un virus complexe, capable de s'adapter et de muter rapidement. Le virus peut ainsi devenir résistant aux médicaments, non seulement par sa capacité à s'adapter, mais aussi parce que les comportements de la personne sous traitement favorisent cette résistance. Pour en savoir davantage, nous recevons comme invité le docteur Joe Kabongo. Il est médecin en service au centre d'expérience. Excellence VIH-SIDA de l'université de Lubumbashi. C'est en République démocratique du Congo. Il est au micro de notre correspondante Gabrielle Nina.
On parle de résistance à un médicament quand ce médicament n'a plus d'effet escompté. Quand le médicament n'a plus d'effet recherché suite à une mutation du germe contre lequel il devrait agir ou il agit.
Quand dit-on qu'un virus ou une bactérie est devenue résistante à un médicament ?
Quand ce médicament n'agit plus sur lui. Quand le médicament n'agit plus sur lui, du fait qu'il a soit muté ou il a varié, à ce moment-là, on peut parler de résistance.
Et dans les cas du VIH-SIDA, que signifie la résistance du virus aux antirétroviraux ?
C'est un sujet assez vaste. Bon, on parle, le virus devient résistant dans un milieu comme le nôtre quand les antirétroviraux ne font plus effet thérapeutique. Donc cliniquement, le patient n'évolue plus. Donc ça veut dire qu'il présente d'autres pathologies ou d'autres maladies. Au moment où il était déjà stable après un certain temps, normalement ici on parle de 6 mois. Quand 6 mois après avoir mis un patient sous traitement et que cliniquement il n'est toujours pas stable, on parle de résistance. Et on peut aussi parler dans le cas où le nombre de virus qu'on a dans le sang circulant est toujours détectable par les machines actuelles. En principe, au bout de 6 mois, on ne devrait plus détecter les virus ou les copies des virus dans le sang circulant, dans le sang périphérique. Quand le virus supplombe les médicaments qui lui sont destinés à ce moment-là, les médicaments n'agissant plus, les virus continuent à se multiplier. Au moment où, quand on lui donne les médicaments, c'est pour l'empêcher de se multiplier, donc l'empêcher d'infecter d'autres cellules. Et quand on l'empêche d'infecter d'autres cellules, il meurt en même temps que les cellules qu'il a infectées dès le départ.
Et comment se traduit cette résistance pour le VIH-SIDA ?
La traduction est clinique, la personne redevient malade. Comme vous le savez, SIDA veut dire maladie, ce qui est différent d'être infecté par le VIH. Quelqu'un qui est infecté par le VIH n'est pas forcément malade, mais quelqu'un qui fait le SIDA, il est malade. Or, infecté ou SIDéen, quand vous prenez vos antirétroviraux, vous devenez cliniquement stable. Du point de vue virologique ou immunologique, du point de vue tout ce qui est examen de laboratoire, vous n'avez plus des preuves de la maladie. Donc si aujourd'hui on prend votre sang périphérique et on dose la quantité des virus ou des copies virales plasmatiques que vous avez dans les sangs circulants, il n'y a plus rien. À ce moment-là, on dit que vous êtes stable ou les médicaments qu'on vous donne agissent ou votre virus répond aux médicaments contre lesquels il est soumis. Cliniquement, le patient est malade ou il devient plus malade qu'avant, ce qui conduit généralement à la mort s'il n'est pas rapidement pris en charge par d'autres médicaments. Généralement, on change de ligne de traitement. Et du point de vue de laboratoire, comme je viens de le dire, on a toujours les copies des virus ARN dans le sang circulant ou ADN, d'ailleurs, dans le sang périphérique.
Quelles sont les causes éventuelles des résistances du VIH-SIDA aux ARV?
Elles sont multiples. Le virus lui-même peut présenter une mutation. Donc, il change. Notre virus, comme on le dit dans un langage beaucoup plus vulgaire, il est intelligent, il change. En termes beaucoup plus scientifiques, on parle de mutation ou de variation. Ça, c'est un, ça, c'est du côté du virus. Du côté de la personne elle-même qui est infectée par le VIH, elle peut favoriser aussi les mutations. Par exemple, en n'adhérant pas au traitement. Quelqu'un qui ne prend pas correctement les traitements, c'est comme les antibiotiques, quand vous les prescrit, vous ne les prenez pas correctement. Le germe a le temps de changer, de varier ou de muter et devenir résistant. Quand vous prenez les médicaments sans respecter les heures de prise, actuellement les prises des médicaments sont plus simples. On prend un seul comprimé aux mêmes heures. Quand vous ne prenez pas aux mêmes heures, vous favorisez cette mutation, donc cette résistance au virus. Il y a aussi la surinfection. Ce n'est pas parce que vous êtes infecté par le VIH que vous ne pouvez plus vous infecter. Vous pouvez aussi vous réinfecter en adoptant des comportements, notamment sexuels, irresponsables. Vous pouvez attraper d'autres virus. Vous y allez sans préservatif, par exemple. Et quand vous ajoutez d'autres virus sur ceux que vous avez déjà, votre virus, ça peut favoriser une mutation, donc une résistance.
Comment la personne vivant avec le VIH-SIDA peut savoir que son traitement subit des résistances? Quels sont les signes?
Généralement, il y a un échec clinique. Il échoue au traitement de manière clinique, donc la personne redevient malade. Ça veut dire, en termes beaucoup plus compréhensibles, la personne refait ce qu'on appelle les infections opportunistes. Tuberculose, les méningites, les diarrhées, au bout de 6 mois de traitement, une personne doit redevenir stable. Mais si au bout de 6 mois de traitement, pour des raisons que je viens d'évoquer, une personne refait ce qu'on appelle les infections opportunistes, donc ce sont des pathologies qui profitent de la baisse de l'immunité de la personne, donc de l'effet même du VIH sur le corps humain, à ce moment-là, la personne ou le personnel médical, face à ce malade, dit que celui-là, il a développé son virus ou ce virus vient de développer une résistance et qui a provoqué un échec thérapeutique.
Comment faire lorsque le VIH-SIDA est devenu résistant aux ARV?
Dans notre pays, nous avons 2 lignes de traitement. En principe, qu'est-ce qu'on fait d'habitude face à ce genre de patients? Quand une personne présente un échec lié à une résistance virale, comme nous avons des moyens très limités, ailleurs on fait des tests de résistance, ici on ne les fait pas, donc nous avons beaucoup plus la clinique, ce que le malade présente comme pathologie. Nous pouvons faire la charge virale et nous pouvons compter les CD4 qui sont les cellules de défense. Donc, on définit un échec thérapeutique, premièrement en posant le diagnostic des infections opportunistes, je viens d'en parler tout à l'heure, ça peut être tuberculose, ça peut être méningite, ça peut être ceci, ça peut être un cancer lié au VIH. On dose la charge virale, donc les copies des virus dans le sang périphérique, ou on peut encore doser le nombre de cellules de défense de l'organisme. Parce qu'en principe, ce qui est logique, c'est qu'après un certain temps, les cellules de défense augmentent. C'est ce qui est logique quand vous prenez correctement vos médicaments. Mais pour des raisons que je viens d'évoquer, les cellules de défense diminuent. Quand les cellules de défense diminuent, on commence à parler de résistance. Alors, dans l'un ou l'autre cas, on pose ce diagnostic de résistance, on change de ligne de traitement. Alors, si quelqu'un avait la première ligne de traitement, on lui donne la deuxième ligne de traitement. C'est encore un problème chez nous, dans les pays à ressources illimitées. Quand quelqu'un, malheureusement, échoue à cette deuxième ligne de traitement, nous nous retrouvons en fin d'option thérapeutique. Mais sous d'autres cieux, ils ont plusieurs possibilités, parce que, ayant plusieurs molécules.
Comment éviter que le VIH-SIDA ne devienne résistant aux ARV chez un patient?
Nous avons d'abord cette sensibilisation père-thérapeutique. Donc, en cours de traitement, on doit continuer à sensibiliser nos patients ou nos clients, leur demander de prendre aux mêmes heures leurs médicaments, de prendre chaque jour aux mêmes heures, j'insiste. Deuxièmement, de venir au contrôle régulier, donc de manière régulière. Comme ça, on peut savoir si le virus lui-même, il aurait muté pour une autre raison indépendante du patient, qu'on nous prenions des dispositions. Et de trois, d'adopter un comportement responsable. Je viens de le dire, ce n'est pas parce qu'on est infecté aujourd'hui et qu'on prend les médicaments qu'on ne peut plus se réinfecter. Donc il y a des gens qui croient pouvoir infecter les autres parce qu'ils ont été infectés, mais ils vont puiser d'autres virus. Par ce comportement irresponsable, ils peuvent favoriser la mutation de leur propre virus et ainsi développer des résistances.
Quel conseil pouvez-vous donner aux personnes vivant avec le VIH/SIDA à cet effet ?
Malgré l'infection, si on prend correctement ces médicaments chaque jour, aux mêmes heures, en adoptant un bon comportement, se nourrissant convenablement, en ayant un carnet médical bien rempli et respectant tous ses rendez-vous et en suivant méticuleusement les conseils donnés par son médecin.
Nous remercions le docteur Joe Kabongo qui était au micro de notre correspondante Gabrielle Nina.
Quelqu'un l'a vécu ? Voici son témoignage.
Le virus du sida a une espérance de vie de quelques heures dans le corps humain et tout ce qu'il va faire pendant cette période, c'est de se reproduire. Le rôle des médicaments est d'empêcher le virus de se multiplier de telle sorte qu'il meure, donc sans s'être reproduit. Ainsi, la quantité du virus va diminuer jusqu'à devenir indétectable. Mais pour cela, comme nous l'a expliqué notre invité, le patient doit être dépisté tôt et prendre normalement son traitement, ce qui n'est pas toujours évident. Quelques difficultés d'ordre socio-économique s'opposent souvent pour les personnes vivant avec le VIH-SIDA. Voici les explications du docteur Maurice Fellow, chargé de prévention et de plaidoyer au sein de l'Union congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH-SIDA, UCOP+, en sigle. Il est au micro de notre correspondante, Béro Matanda.
UCOP+, c'est l'Union congolaise des organisations des personnes vivant avec VIH. C'est une ASBL des droits congolais qui s'occupe des problèmes des personnes vivant avec le VIH. Et UCOP+ a réussi les mandats du ministère de la Santé publique pour coordonner toutes les activités des personnes vivant avec le VIH à travers la RDC, sans discrimination aucune, pour être la première barrière entre le VIH et la communauté.
Docteur, avez-vous dans votre association des patients qui ont des soucis avec leur traitement antirétroviral?
Il y a des patients qui ont des soucis avec les traitements. Les soucis sont nombreux, mais je vais quand même résumer quelques-uns. Premièrement, c'est les soucis en lien avec les effets secondaires du traitement. Il y a des patients qui ne tolèrent pas ces effets secondaires. Il y a aussi un problème de nutrition. Et surtout, nous sommes un pays en voie de développement avec tout ce que les gens doivent fournir comme effort pour trouver de quoi survivre à leurs besoins. Et ajouter à ces problèmes ou aux médicaments qu'ils prennent, et s'il n'y a pas d'alimentation, ça pose problème. Donc le problème de nutrition ou le problème d'alimentation aussi est un réel problème pour les personnes vivant avec le VIH, hormis le problème des effets secondaires.
Est-ce qu'il existe aussi dans votre association des cas de personnes dont le virus est devenu résistant au traitement?
Nous avons des pareilles personnes. Et ces cas s'expliquent par le fait que soit il y a une mauvaise adhérence au traitement ou il y a une mauvaise observance au traitement. Et ces cas sont référés au niveau de l'hôpital des cabines, la CHK, avec MSF. Et c'est à ce niveau-là où MSF prend en charge les VIH au stade avancé. Et dans son rapport qu'il a eu à faire, il démontre qu'il y a des personnes qui de plus en plus arrivent au stade avancé du VIH, soit parce qu'ils ont été dépistés et ils n'ont pas été mis sous traitement, et ils arrivent au stade avancé avec les CD4 qui sont déjà effondrés et ils présentent des infections opportunistes. Mais également des personnes qui arrivent avec une mauvaise adhérence ou observance au traitement, et ce qui fait que les virus évoluent et il y a des effets secondaires et des résistances au traitement qui se développent et on arrive à des pareils cas dans nos associations.
Est-ce qu'il existe aussi des personnes qui prennent les médicaments, mais dont la santé ne s'améliore pas? À quoi cela est dû et que fait votre association pour ce genre de personnes?
Comme je l'ai dit précédemment, ces gens existent, ils prennent les médicaments dont la santé ne s'améliore pas. La première cause, il peut y avoir une mauvaise observance ou une mauvaise adhérence au traitement. Si la personne n'est pas adhérente au traitement, il prend le traitement, mais l'état ne va pas s'améliorer. Mais également, si la personne prend le traitement et qu'il ne s'alimente pas correctement, son état sanitaire ne va pas s'améliorer. Et des pareilles personnes, nous les référons généralement au niveau des CHK Kabinda, chez MSF, où ils sont pris en charge au niveau du VH avancé pour qu'ils soient pris en charge de cette façon-là. Donc c'est comme ça que nous essayons de référer toutes ces personnes. Et surtout, nous pouvons aussi parler de la stigmatisation. Vous savez que la stigmatisation dans les centres hospitaliers, au niveau de la communauté, et cette stigmatisation fait à ce que les patients puissent arrêter avec les traitements. Et lorsqu'ils arrêtent avec les traitements, vous voyez les conséquences qui s'en suivent. Donc, il peut avoir un état de santé qui ne s'améliore pas. Et on a toutes les conséquences avec l'apparition des infections opportunistes. Et si des pareils cas sont là, nous les référons au niveau des CHK Kabinda pour une prise en charge avec le VH avancé.
Quels sont selon vous les efforts à faire par les patients, les personnels soignants et le gouvernement pour améliorer les traitements de PVV?
Je pense que, comme vous l'avez si bien énuméré, à chaque niveau, il y a des efforts à faire. Au niveau des patients, ils doivent d'abord être adhérents au traitement et observants, donc observer la prise régulière des médicaments, respecter les rendez-vous avec les personnels soignants et accepter que les VH n'est pas une fatalité. Parce qu'il y a des gens qui s'ostigmatisent eux-mêmes et qui se discriminent eux-mêmes, et ce qui fait qu'ils vivent en clandestinité. Ils n'ont pas le courage de s'afficher et de s'affirmer pour dire « voilà, je suis malade et c'est une maladie qui n'est pas une fatalité, mais je dois l'accepter telle qu'elle se présente ». Il y a des gens qui vivent encore dans la clandestinité parce qu'ils sont stigmatisés, discriminés par eux-mêmes par moment. Donc il faut que les malades à l'aise à ce niveau-là acceptent cette situation et prennent régulièrement les traitements, respectent les rendez-vous. Et lorsqu'on respecte correctement les rendez-vous, on a des cas où les patients arrivent avec la suppression des charges virales parce que les rendez-vous sont correctement respectés. Ça, c'est au niveau des patients, mais également au niveau des personnels soignants. Il faut que les personnels soignants aussi, à leur niveau, observe certains principes. Il faut que les personnels soignants cessent de discriminer et de stigmatiser les personnes vivant avec les VIH, mais également qu'ils prennent soin et qu'ils se mettent correctement à prendre en charge les personnes qui se présentent devant eux et faire le suivi clinique et biologique de ces malades qui se présentent pour garantir la bonne santé de ces personnes qui vivent avec les VIH. Au niveau du gouvernement, il faudrait que le gouvernement s'implique aussi et avec l'application de certaines lois qui sont déjà promulguées, notamment la loi protégeant les personnes vivant avec les VIH, il faut que cette loi soit appliquée correctement dans le sens où les personnes qui stigmatisent ou qui discriminent les autres soient traduites devant les instances judiciaires pour que ces pratiques cessent et que les personnes jouissent des droits comme toute autre personne, parce qu'être malade, être personne vivant avec les VIH ne veut pas dire que cette personne n'a pas des droits à jouir. Donc il a des droits à jouir comme tout le monde. Il faut que le gouvernement s'implique à ce niveau là pour que des pareils cas soient punis. Mais aussi, il faut que le gouvernement s'investisse dans la prise en charge globale, dans l'aspect nutritionnel des malades qui n'ont pas de quoi survenir à leurs besoins, surtout sur les plans nutritionnels, qui s'impliquent pour que la santé des personnes vivant avec les VIH soit améliorée.
Nous remercions le docteur Maurice Fello pour son témoignage.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Aman Genkap, a répondu à toutes vos questions. Le docteur Genkap est médecin urgentiste et praticien au Centre hospitalier universitaire de Soissons en France.
Bonjour docteur. Mon frère a 10 ans et fait encore pipi au lit. Est-ce que c'est normal, docteur? Jusqu'à quel âge peut-on s'arrêter de faire pipi au lit? Qu'est-ce que je vais faire pour mon frère?
Ben, il faut dire que faire pipi au lit en médecine, ça s'appelle l'énurésie. En fait, c'est une miction, enfin, c'est une façon de faire pipi de façon complète, involontaire, inconsciente, et ceci pendant le sommeil de l'enfant. Le contrôle physiologique de ce sphincter vésical-là qui permet d'éviter de faire pipi s'acquiert à partir de 5 ans. Donc, on va dire qu'un enfant souffre du fait de faire pipi au lit au-delà de l'âge de 5 ans. En dessous, c'est très difficile d'en parler parce qu'il y a des enfants qui vont être propres, comme on dit, la nuit, très précocement, mais il y a d'autres qui vont être propres la nuit tardivement. Mais à partir de 5 ans, on peut constater que c'est une anomalie. Là aussi, on a 10 à 15% des enfants de 5 ans qui font encore pipi au lit. Et lorsqu'ils ont 8 ans, ce chiffre tombe à 6 à 8%. Et lorsqu'ils ont plus de 8 ans, à savoir 10 ans comme le frère de l'auditeur qui appelle, ce chiffre tombe entre 1 et 2%. Mais il faut avouer que progressivement, l'enfant va connaître la maturité de sa vessie, à savoir qu'il va réussir à contrôler sa miction la nuit dans son sommeil du fait de cette maturité vésicale-là avec l'âge. Toutefois, l'auditeur ne précise pas si le fait de faire pipi au lit est quelque chose de permanent, à savoir toutes les nuits, ou si c'est quelque chose d'épisodique. En général, lorsque l'enfant fait pipi au lit de façon permanente, là on est vraiment en présence d'une énurésie maladie, d'une immaturité vésicale qui va se manifester effectivement par des incontinences nocturnes toutes les nuits. Mais si cet acte-là survient de façon épisodique, de façon exceptionnelle, que l'enfant fait pipi au lit, là il faut aller chercher une autre cause. En général, les causes sont plutôt des causes d'ordre psychologique. Il y a peut-être un trouble psychologique dans la famille, il y a peut-être quelque chose qui bouleverse psychologiquement l'enfant. Et à ce niveau-là, on se trouve en présence vraiment d'une énurésie qui est d'origine psychologique. Quoi qu'il en soit, le conseil que je peux donner à notre auditeur, dans un premier temps, c'est déjà le rassurer en disant que son frère ne continuera pas à faire pipi au lit. Au bout du compte, cette vessie-là connaîtra sa maturation et il fera de moins en moins pipi au lit. Mais il faudrait quand même qu'il amène son frère consulter un médecin afin qu'il puisse déterminer vraiment la cause. Si la cause est une cause maladie du fait d'une immaturité vésicale, il y a effectivement des traitements qui existent contre l'énurésie, médicament qu'on donne vraiment contre l'incontinence nocturne de l'enfant. Et c'est un médicament qui va accélérer la maturation vésicale. Par contre, si c'est d'ordre psychologique, bon, bien évidemment, il faut un suivi psychologique. Dans l'attente, les conseils que je peux donner à notre auditeur, c'est que dans un premier temps, le soir, il faut éviter de faire boire cet enfant-là dans les heures qui précèdent le fait qu'il va aller au lit. Et surtout, il faut absolument l'amener faire pipi avant qu'il ne se couche. Voilà les deux mesures qui vont lui permettre d'éviter de faire pipi au lit en attendant une éventuelle consultation médicale pour préciser exactement la cause. Voilà ce que je pouvais dire à cet auditeur.
Vous avez des questions ou des commentaires? Contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, regardez la version télé de ce programme qui sera diffusée sur cette page Facebook, sur le site web de VOA Afrique, voafrique.com, et sur nos télévisions partenaires.
C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée à la résistance du virus du sida au traitement antirétroviraux ARV en sigle. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Joe Kabongo, médecin en service au Centre d'excellence VIH-Sida de l'Université de Lubumbashi, c'est en RDC. Il nous a expliqué pourquoi le virus résiste parfois aux médicaments et comment faire pour éviter les cas de résistance ou y faire face. Nous avons aussi écouté le docteur Maurice Pello, responsable de la prévention et du plaidoyer au sein de l'Union congolaise des organisations de personnes vivant avec le VIH, COPLUS en sigle. Il nous a parlé des problèmes rencontrés par certains patients dans le suivi de leur traitement. Nous leur disons merci.
Nous remercions également Firmin Kouyaouida qui était là avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Béro Matanda à Kinshasa et Erika Mouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Tchèque Thierry et de Karen Starling qui était à la console. À la présentation, c'était Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de
Mamadou Oumfa.
Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.